Quand j'ai l'occasion d'entrer dans la maison de quelqu'un, vous commencez à me connaître un peu, je laisse traîner mon regard un peu partout. Comme tout le monde, j'observe. L'intérieur est-il en ordre? Est-il surchargé de meubles? Et rapidement, je recherche les livres, non pas pour juger, mais je suis toujours curieuse de l'endroit qu'on leur a assigné. Et en la matière, il y a plusieurs écoles. Ceux qui les ont regroupés dans une grande bibliothèque qui occupe tout un mur du salon, parfois impressionnant, d'autres qui en répartissent un peu partout, de la cuisine à la chambre, en passant par les toilettes. Et je ne peux pas m'empêcher discrètement de m'approcher des piles ou des rayonnages. Une amie récemment me disait que quand elle rencontrait un homme, la première chose qu'elle faisait une fois chez lui, c'était de regarder ce qu'il pouvait bien lire. Je ne sais pas quel genre de conclusion elle en tire. Moi, j'ai tendance à me méfier des effets d'affichage. Vous savez, ces livres qu'on expose de façon trop ostentatoire. Personnellement, les livres, je ne sais plus quoi en faire. Au prix du mètre carré à Paris, avoir une grosse bibliothèque, c'est devenu un véritable luxe. Un jour, une femme m'a dit quelque chose de très beau. Un livre, quand on l'aime, c'est comme un oiseau. Il ne faut pas le garder en cage. Alors depuis, les livres, je les distribue. Je les abandonne aussi sur des bancs, dans des parcs, dans le métro. Cette femme avait associé le geste à la parole ce jour-là. Elle m'a légué toute sa bibliothèque en m'invitant à en faire de même tout au long de ma vie. Je ne sais pas si vous êtes à l'écoute, Marie-Paul Claverolas. Je voulais vous dire merci.
France Inter. Duh. Le Mac de l'été. Leïla Kadour.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Mac de l'été, votre rendez-vous culture tous les jours de la semaine sur France Inter pour vous parler de tout ce qui nous met en joie. Aujourd'hui, un maillon essentiel d'un circuit court et pourtant rarement mis en lumière dans les émissions culturelles, le ou la libraire. Habituellement, on les fait venir au micro pour leur demander de nous livrer une liste de recommandations de lecture ou de jouer aux critiques littéraires. Mais au fond, les libraires ne méritent-ils pas d'être invités comme un acteur à part entière du monde de la culture? Je vous pose la question. C'est mon ambition, en tout cas dans cette émission. Et pour la mener à bien, j'ai demandé à une femme que je connais depuis quelques temps d'abandonner son poste et de me rejoindre. Elle, c'est ma libraire de quartier. J'aime bien dire ça comme ça parce que j'ai mon boulanger aussi, j'ai mon caviste. Ils sont associés tous à l'endroit où je vis, et ça c'est très important. Elle, je vous la présente enfin. C'est donc Marie-Rose Guarnieri. Bonjour Marie-Rose.
Bonjour, bonjour Lila.
Soyez la bienvenue au micro de France Inter dans le Mac de l'été. N'allez pas croire, chers auditeurs, que c'est par facilité que j'ai invité Marie-Rose. Je voulais vous faire partager le plaisir que j'ai à échanger avec elle à chaque fois. Une manière aussi de vous inciter à rencontrer votre libraire, à passer le seuil de sa porte, pour rencontrer un professionnel qui peut vous aiguiller, mais surtout un individu comme vous. Marie-Rose Guarnieri, vous avez quitté là à l'instant votre librairie des Abbesses pour être avec nous. Quelle est la demande qui est le plus formulée en ce moment dans votre librairie? Qu'est-ce qu'on vous demande le plus?
Alors l'été c'est un temps particulier. Car les gens souvent arrivent en me disant « Ouf, je vais enfin pouvoir lire !»
C'est le temps de la lecture.
Là, ouais. On sent que les esprits commencent à sourire et se dire « Je vais entrer dans une autre temporalité, dans un temps intérieur. » Donc ils me demandent parfois les livres de l'année qui ont été importants. Parfois ils partent dans un pays ou dans une ville, alors ils me disent « Ah, oh, j'aimerais bien lire un livre qui puisse se raccorder à la ville, car j'aime beaucoup associer, lire un texte en fonction de ce que je vis aussi autour de moi. » Il y a des fois des gens qui veulent lire des grands classiques, des gros livres. Et puis, enfin voilà, c'est très hétérogène. Il y a autant de demandes, en fait, que de sensibilité, que de personnes. Mais c'est un temps très intéressant parce que la production s'arrête. Enfin, nous, on travaille, on s'arrête pas parce qu'on est en train de défricher pour la rentrée littéraire. Mais on est un temps où vraiment notre fonction de libraire, là, est tout à fait vraiment effectif et mobilisé parce que là, on va tous azimuts, quoi, on peut dire.
Moi, la dernière fois, ça remonte plus loin.
Marie-Rose, pour commencer cette émission, on fait les choses à l'envers avec un questionnaire. La dernière fois, que vous avez oublié un livre quelque part, est-ce que vous oubliez vos livres?
Oui, ça m'arrive parce que je suis toujours avec plusieurs livres évidemment en route et parfois voilà je les laisse ou dans un café ou dans un ou chez une amie ou voilà ou dans un train voilà je les oublie parfois je les oublie.
C'est quoi il faut prendre ça comme un signe, il fallait le laisser là le livre, vous dites mince, il faut que j'en reprenne un autre, je continue ou je l'abandonne?
je sais pas, c'est, en tout cas, c'est un oubli peut-être qui est nécessaire, parce que, comme, voilà, je pense que c'est un oubli nécessaire, voilà, c'est, j'ai pas toujours interrogé pourquoi j'avais laissé ce livre-là, mais en tout cas, ça, chaque fois, c'est comme une perte, pour moi, très importante. Surtout quand il s'agit d'un livre avec, ou que j'ai pas fini, mais, pour moi, perdre un livre ou dans la librairie perdre un livre,
ne pas réussir à le retrouver,
c'est de l'ordre de la, c'est une épreuve, voilà, de l'ordre de la perte intérieure importante, quoi.
La dernière fois que vous avez utilisé un livre, je ne sais pas, par exemple pour caler un meuble, est-ce que vous faites ça avec l'objet livre ? C'est quoi votre rapport à l'objet ?
À l'objet, moi, c'est pour moi, c'est un corps. Hein. C'est, oui. C'est d'abord, oui. Alors, c'est très particulier parce que là, je vous fais rentrer vraiment dans mon rapport intime à ce métier. Bah, c'est vraiment, pour moi, c'est un corps. Donc, je ne m'en sers pas du tout pour caler des meubles. Mais par contre, je m'en sers pour en faire un paysage intérieur. Oui. Et c'est des choses qui me parlent. Je les fais parler, je les fais chanter entre les livres. Donc, je mets des jaquettes, il y a des mots, il y a des typos, il y a des volumes, des formats. Enfin, voilà, pour moi, le rapport que j'ai aux livres, c'est plutôt de les scénographier
comme des individus.
Et donc, d'ailleurs, je crois que ma librairie, quand les gens entrent, c'est ce qu'ils remarquent, c'est que les livres ont une présence comme des tableaux. Voilà, c'est des tableaux pour moi. Donc, je les installe pas du tout de façon... Il y a ma main comme ça qui travaille et qui se laisse guider par les livres. Et voilà, je les fais... c'est l'art des liens. Le libraire, c'est l'art des liens. C'est le savoir-faire entre mettre un livre par rapport à un autre. C'est pas un livre tout seul.
Est-ce que dans l'intimité, vos livres, quand vous les lisez, est-ce que vous cornez les pages ? Est-ce que vous écrivez dedans ? Ou est-ce que vous avez un rapport comme ça, un petit peu très, très respectueux à l'objet, au corps
non,
dont
pas,
vous parliez ?
Alors voilà, je suis comme avec... Ou parfois un diamantaire avec ses livres. Ou voilà... comme un être.
Faites
quoi,
très
voilà.
Attention.
Je suis avec, comme avec un être. Ouais. Alors des fois, avec des êtres, on se dispute. Avec des êtres, on les aime bien. Il y a des êtres qu'on veut, qui sont précieux. Donc, je suis comme avec des vraies personnes. C'est important et c'est très bizarre. C'est que c'est la chose la plus difficile que je puisse imaginer. C'est que je ne pas avoir de livre matérialisé à mes côtés. Car c'est vraiment...
Le livre électronique, c'est non, alors. Enfin, en tout cas, les liseuses.
Non, je dis pas non du tout. Je suis pas, non, quand même pas séiste. C'est que vraiment, la présence des livres me procure un énorme réconfort et me procure une grande inspiration pour vivre. Les mots d'un titre, ce n'est pas anodin pour moi, un livre.
La dernière fois que vous avez relu un livre.
Oh, j'en relis.
Vous faites souvent ça ?
Oui, j'en relis.
Alors,
relis
c'était
beaucoup.
Quoi le dernier ?
Alors, le dernier, je crois que c'était ma petite nièce, Poil de carotte, de Jules Renard, que j'adore. Donc, je lui ai relu parce que je trouvais que c'était important. C'est un livre qui n'est pas tant un livre d'enfant.
La dernière fois que vous avez suivi les conseils d'un libraire, on dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Est-ce que vous faites appel à des professionnels tout
même ? Ah oui, on se parle beaucoup entre nous. C'est un corps de métier. C'est une vraie fraternité du feu, hein, les libraires, entre eux. Hein. Donc, j'ai mon ami Delphine de chez Joseph Gibert qui m'a conseillé un livre que j'ai adoré, que j'ai mis en pile. Et voilà, on est entre nous, on se livre des livres
conseils.
Qu'on repère et des conseils de livres. Et je vais chez les libraires pour chercher tout le temps un livre. Le métier de libraire, c'est aussi chercher le livre qu'on n'a pas. Voilà.
La dernière fois que vous avez renoncé à finir un auteur, un livre, et d'ailleurs, quel est l'auteur qui vous résiste le plus ? Souvent, c'est compliqué de dire qu'on n'a jamais réussi à lire Proust ou jamais réussi à lire Zola. Vous, c'est qui votre chat noir ?
Moi, il y a Joyce, dont les clients me parlent beaucoup, et puis il y a des auteurs trop arides pour moi, et voilà, avec lesquels je ne suis pas en contact, parce que je pense pas qu'il faille qu'on soit obligé de se... Moi, professionnellement, je lis aussi pour moi, mais aussi professionnellement. Donc, il y a des textes, effectivement, qui résistent parce que c'est pas le moment. Il y a un temps pour tout,
pour
rencontrer des livres.
Marie-Rose Guarnieri, on aborde souvent votre métier d'un point de vue économique, c'est un aspect qui est très important, on l'évoquera au cours de cette émission, mais surtout, moi j'aimerais aller plus au cœur de votre métier, c'est quoi être libraire ? Avant de vous laisser répondre, écoutez ce qu'en disait une libraire comme vous, mais c'était en 1955. Attention, je vous préviens, le journaliste qui pose les questions peut vraiment donner envie de se cogner la tête contre les murs.
Nous sommes arrivés à la librairie Montjoie. Et nous sommes là, à la poule d'île Saint-Louis, dans une librairie que mène une femme chef d'entreprise, Madame Chappé. Et je pense que vous allez vous évader de la poésie pour me parler du point de vue commercial, de ce qu'est la femme chef d'entreprise lorsqu'elle est libraire.
Et bon, je pense que le rôle de la femme chef d'entreprise libraire est de guider sa clientèle et de sélectionner parmi les très nombreux livres qui paraissent chaque année ceux qui peuvent satisfaire les goûts de sa clientèle. Nous avons eu en 54 à choisir parmi 12 000 titres.
Alors vous imposiez à votre clientèle, vous l'aiguillez.
Ah non, je n'impose pas à ma clientèle.
Ah oui, le mot quand même ne serait pas vilain, imposer.
Non.
Vous le feriez joliment, une femme.
Je les conseille, je leur propose les titres.
Alors pour parler clair, pensez-vous qu'il est préférable d'être femme libraire ou homme libraire?
Ah, vous me posez
là
une
question. Ah, vous ne pouvez pas prendre position.
Très délicate.
Alors, instantanément, je dirais qu'une femme libraire.
Il y a des mauvais hommes libraires comme il y a des mauvaises femmes libraires.
Alors... Ça, c'est très habile ce que vous venez de me dire, en effet.
Voilà, enfin, elle arrive à...
Ah, elle est bien, cette libraire, elle est très moderne. Hein.
Elle dit tient tête. Alors, pour vous, c'est quoi être libraire, Marie-Rose? Satisfaire le lecteur, voilà ce que nous dit cette libraire en 1955. À première vue, le métier de libraire, c'est aussi un métier de conseil. C'est aussi pour ça qu'on va voir un libraire. Ça veut dire qu'on est donc amené à conseiller en fonction de ce que demande le lecteur et de qui il est. Ça veut dire comment on le cerne, comment on fait?
Ah, bah, pas que. Bah, c'est bah, pour moi, libraire, c'est un humanisme. C'est-à-dire que c'est un drôle d'espace. Quand vous entrez dans une librairie, je vais dire, voilà, Adrienne Monnier disait, c'est entre la ferme et le couvent. Il y a des tâches très concrètes, comme ça, très visibles. Et puis, il y a des tâches invisibles qui sont de l'ordre de la sensibilité, de l'ordre du savoir aussi, dans le sens où on a une connaissance des catalogues, on a une connaissance des écrivains, on a une mémoire, c'est un métier de mémoire de ce qu'on a lu, mais on a une mémoire aussi de ce que les écrivains nous ont enseigné. Donc, c'est un métier un peu dans un espace-temps qui est tout à fait antinomique avec notre époque.
Mais alors, puisque concrètement, c'est très lent. Si je viens vous voir, quand je suis venue vous voir la première fois, je suis entrée, je vous ai salué et je vous ai dit voilà, je suis à la recherche d'un livre. J'avais pas de titre en particulier à vous donner. J'avais une demande de littérature un petit peu engagée, qui parle de la société, qui parle des invisibles aussi. Là, on se connaît pas. Qu'est-ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, vous m'orientez vers tel ou tel livre?
Ben, je suis très sensible, quand on est libraire, on est très sensible aux signes. Alors il y a des signes, la façon dont vous me le demandez. Parfois je demande des choses très concrètes. Qu'est-ce que vous avez lu précédemment qui peut m'orienter? Mais je sens tout. Il y a une part de rationnel et d'irrationnel et de savoir. C'est-à-dire que en fait, c'est vrai que c'est l'art des liens, comme je vous l'ai dit. Donc quand on entend une demande, c'est quand même un art de grande écoute. Écoute des textes et des auteurs, mais nous on est à l'interface, on doit mettre en lien la personne qui cherche quelque chose et ce que nous on sait de ce qu'on dispose pour pouvoir les mettre en relation. Donc il faut bien entendre, bien écouter et il faut laisser parfois des intuitions faire le travail pour vous. Les intuitions et le savoir, hein, c'est quand même un savoir, c'est rationnel. Donc parfois quand on entre et qu'on me dit « Ah, j'ai une cousine en Bretagne, je voudrais lui offrir un livre sur la Bretagne », bah parfois je m'en vais complètement ailleurs et la personne me dit « Ah, c'est une bonne idée, je parle d'un livre sur le soleil du Sud, sur... » Alors non, il y a une demande souvent qui est rationnelle et il faut la préciser. Alors parfois on me dit « Voilà, je veux ça ». Et nous on dit « Bon, alors, c'est-à-dire vous avez lu ça, qu'est-ce que vous avez lu précédemment ?» Ou parfois... qu'est-ce qui vous a fait plaisir? Donc il faut essayer d'en savoir un petit peu plus.
Il faut sonder un peu l'âme du lecteur.
Mais parfois on voit parce qu'on a besoin de dire, je suis très 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 littéraire. J'aime les livres, voyez,
un peu dur,
exigeant avec de la langue et tout. Donc faut pas lui donner Anna Gavalda. Mais par contre, si une personne dit moi j'aime bien les histoires, le grand roman, les vrais romans, les vraies histoires, bon bah on voit un peu vers où on peut aller.
Ça veut dire qu'une libraire lit beaucoup, ça on le sait. Vous parliez de ce savoir. Oui. Donc vous êtes amené aussi à lire des choses qui a priori, c'est pas complètement votre tasse de thé, parce que vous devez aussi vous adapter aux lecteurs qui viennent en demande.
On diagnostique, c'est un métier, vous savez, c'est un œil et une mémoire, donc c'est l'art de diagnostiquer un livre et diagnostiquer aussi nos lecteurs, c'est-à-dire qu'on arrive un peu à détecter par 1000 petits signes ce que l'on doit offrir. Et quand on nous conseille et nous parle d'un livre, mais il faut beaucoup. C'est pour ça que c'est un métier. Je vous dis, c'est un humanisme parce qu'il faut énormément d'années pour être un bon libraire.
Ça met du temps.
C'est comme apprendre un instrument de musique. C'est comme apprendre. Quand je vous dis un humaniste, c'est-à-dire c'est aussi apprendre une discipline. C'est une discipline parce qu'il faut apprendre à prendre le temps, et il faut écouter beaucoup, et il faut chercher beaucoup.
Et il faut lire aussi, j'imagine, donc des textes qui, a priori, je reformule ma question,
qui ne sont pas pour vous, mais on comprend, ce qu'il faut, c'est arriver à comprendre de quoi il fait un texte.
Oui.
Donc, c'est les lire professionnellement, c'est pas seulement j'aime pas, parce que c'est pour ça, quand on emploie les libraires en disant, oui, vous pouvez donner votre coup de cœur. Non, un grand libraire, c'est quelqu'un qui, c'est pas, le j'aime pas, c'est à la fin. Ce qui est important, c'est qu'il sache dire de quoi est fait ce livre. Qu'est-ce qu'a mangé l'auteur pour nous sortir un livre pareil. Donc voilà. Et donc j'ai l'oreille aussi musicale. J'entends tout de suite la voix. Je vois s'il y a un style, s'il n'y en a pas. S'il y a une voix ou il n'y en a pas.
La voix dans
le
livre.
Si c'est lisse. Ouais. Si c'est une imitation, si c'est une contrefaçon littéraire. Déjà lu 100 fois. Je dis, bon, alors là j'ai compris. Hop, terminé. Bon voilà. Voyez, je vois.
On ne quitte pas vraiment le monde de l'écriture avec le son du jour sur France Inter. On écoute tout de suite Beau Rivage de Dominica.
À Beau Rivage auront perdu beaucoup de temps, égarés dans des paysages qui ne nous allaient pas vraiment, auront goûté en solitaire aux saveurs de tant de saisons, sans l'avoir prévu, par temps clair, sur Beau Rivage nous échouerons. Avant qu'on voit tes mondes meilleurs, à force de marche entravée, dans le vin déroulé des heures, avons révoqué la douceur sur des chemins de roses enfouies. Bientôt ne resterait d'ailleurs qu'ici. Nous échouerons à Beau Rivage, l'endroit parfait qui nous attend. Auront perdu beaucoup de temps par d'autres lieux pris en otage. Auront connu en solitaire les teintes de tant d'horizons, sans l'avoir prévu, par temps clair, sur Beau Rivage nous échouerons. Nous sommes heurtés à des barrages, à des croix tout juste dressées, à travers l'an des marécages, sans chemin avons rebroussé, essuyant des larmes d'orage, au fond de vallées dépeuplées. Nous échouerons à Beau Rivage, l'endroit parfait qui nous attend, par-delà lande et marécage, avons perdu beaucoup de temps, avons écumé toutes les terres, vendangé toutes les illusions, sans l'avoir prévu. Thank you.
passion lecture, passion libraire pendant ce disque avec Marie-Rose Guarnieri. On continuait la conversation en évoquant tous ces musiciens qui sont passés avec brio à la littérature, que ce soit Dominica, Raphaël, Bertrand Belin récemment. En tout cas, dans le Mac de l'été, vous voyez, on essaye de vous envoyer toutes les ondes positives pour vous réconcilier avec les livres aussi d'aventure. Vous étiez fâchés avec eux. Mais que se passe-t-il d'autre aujourd'hui dans le monde de la culture? Eh bien, il suffit de demander le programme. Les derniers jours du mythique Montreux Jazz en Suisse, tous les plus grands ont un jour joué dans ce festival créé en 67 par Claude Nobs. Ce soir, la grande Lauren Hill est à l'affiche. Croisons les doigts pour qu'elle soit ponctuelle. Demain, on continue avec une légende, Quincy Jones, musicien de génie, arrangeur de Frank Sinatra, de Barbara Streisand, producteur d'au moins deux albums cultes de Michael Jackson, Bad et Thriller. Et à 86 ans, il a toujours la santé.
Vous n'êtes pas Jamila Narubi, journaliste libanaise en poste à Rome, mais la princesse Altarouk, la nièce du souverain d'Égypte Farouk.
Je suis démasquée. Plus sérieusement, à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, à Couture-sur-Garonne démarre le Festival international du journalisme. Presse écrite, radio, télé, web, tous les acteurs de l'actualité sont là pour vous parler de leur métier, des rencontres, des tables rondes et des questions essentielles aussi, par exemple sur le traitement médiatique des Gilets jaunes. La directrice de la rédaction de BFM sera de la partie, un événement organisé par Le Monde et les autres titres du groupe.
Oh, cette femme-là, ouah, oh là là, je...
Oh là là, et moi j'ai une très bonne nouvelle. Tous les 14 juillet, il y a, oui, le bal des pompiers, mais aussi une représentation gratuite à la Comédie Française à 14h. Wow. Cette année, c'est l'hôtel du libre-échange de Feydeau et de Desvalières, mise en scène signée Isabelle Nanty, scénographie et costume Christian Lacroix. Allez-y les yeux fermés, c'est du bon. Côté pratique, les places sont à retirer le jour même à partir de 13h. Distribution, écoutez bien, par ordre d'arrivée à raison d'une place par personne. Et sinon, la pièce est jouée jusqu'au 25 juillet, mais là, il faudra payer.
Le Mac de l'été sur France Inter.
Marie-Rose Guarnieri, toujours avec nous, libraire à Paris. Marie-Rose, on évoque toujours avec vous ce désir de faire entrer le livre dans la vie des lecteurs qui passent le pas de votre porte. Vous avez créé beaucoup d'événements, des animations, des prix littéraires, là aussi pour favoriser la rencontre entre les auteurs et les lecteurs, parce que finalement, vous êtes quand même cet élément essentiel. C'est grâce à vous aussi, comme l'éditeur, mais au plus près du lecteur, que le bouquin arrive dans les mains du lecteur.
Oui, l'idée c'est que tous ces lettres, tous ces mots soient vivants. Donc il faut essayer aujourd'hui d'inventer énormément de
manifestations.
Avoir beaucoup d'idées, de manifestations pour pouvoir soutenir surtout les livres qui se cachent, les livres qui sont moins connus, qui sont plus lointains. Donc il faut vraiment être très innovant aujourd'hui pour faire vivre une librairie. Moi, quand je rentre dans la librairie, c'est aussi un peu comme si j'étais avec un orchestre. Il faut que je fasse jouer tous les instruments. Il faut pas que j'oublie le petit triangle qui est derrière. Il faut que je puisse, comme ça, sur le chemin des lecteurs, leur donner envie de l'ouvrir, de l'acheter, de le chercher. Donc voilà, c'est l'art de, comme ça, de recentrer le plus possible les livres importants et de les mettre en vie, quoi. Voilà, c'est ça ce métier.
Et c'est un lien avec le lecteur et aussi donc avec l'auteur.
Oui.
Vous rencontrez des auteurs, vous entretenez aussi des liens amicaux ou en tout cas professionnels
plus avec des
auteurs.
Oui, parce que en fait, souvent, j'ai remarqué que c'est d'abord avec les auteurs et les éditeurs que j'ai appris aussi mon métier. C'est en lisant, en écrivant, en étant aussi très près des auteurs. C'est eux qui m'ont souvent appris à lire, qui m'ont indiqué des livres à lire. Et la façon dont ils en parlaient ou qu'ils parlaient de leur travail, j'ai compris comment on apprenait à lire, quoi. Voilà, c'est ça qui est très long. C'est une éducation du goût,
oui.
Et c'est une éducation qui demande vraiment, beaucoup de concentration, beaucoup de aussi de disponibilité. Et ce qu'aujourd'hui il nous manque, c'est du temps et de la disponibilité. Donc c'est ces deux denrées-là que nous essayons farouchement, nous libraires, de défendre.
C'est militant.
Dans ces lieux.
En fait, libraire, c'est militant, parce oui. qu'à partir du moment où on essaye de dégager de l'espace de temps disponible ouais. chez ouais. les gens pour qu'ils rencontrent un livre, ouais. qu'ils rencontrent ce corps dont
faim.
Vous parliez.
Oui. Il faut qu'ils aient faim, parce qu'aujourd'hui on est dans une époque où on veut absolument vous combler, il faut que vous manquiez de rien, et en fait le manque c'est le désir, et donc on est lecteur quand on est manquant, quand on est troué intérieurement et qu'on a faim. Donc voilà, nous on cherche les affamés de nos sociétés pour qu'ils viennent vers les librairies et ils cherchent à rencontrer une voix qui leur raconte quelque chose qui n'est pas eux, quoi. Voilà, et c'est aussi la curiosité pour un autre que nous-mêmes, et c'est aussi des compagnons. C'est vraiment l'expérience que j'ai faite de la librairie, c'est de constater qu'il n'y avait pas de mort dans les librairies, puisque c'est un des lieux où il y a l'éternité, puisque les Kafka, Nietzsche, les morts sont plus, on parle autant d'eux et ils sont autant près de nous, et on les commande, on les fait revenir, on les met sur les tables, on fait des vitrines en pensant à eux. Donc c'est un lieu où au fond il n'y a pas de mort. Donc c'est un lieu quand même réconfortant qui console, et c'est un lieu aussi où on se pose que des questions, et c'est un lieu aussi où on n'atteindra jamais la ligne d'horizon.
Oui.
L'horizon s'ouvre toujours à vous. Un nouvel horizon s'ouvre toujours à vous. C'est ça qui est très stimulant, quoi.
Et une librairie ne ressemble pas à sa voisine. Toutes les librairies sont très, très différentes. Il y a l'âme du libraire.
Oui.
Il y a son envie, il y a son goût, il y a son ambition.
Il y a sa limite aussi, son caractère.
Quartier aussi.
Quartier. Ah oui, le territoire est très important. Vous avez commencé par me parler du quartier, d'un quartier. C'est vrai qu'on, par exemple, moi, je suis à Montmartre, mais je n'aurais pas fait la même librairie si j'avais été à Toulon ou si j'avais été à République, même, dans Paris.
Oui.
Je sais que j'ai été aussi dans un autre quartier. Les livres que je mettais en avant, les clients que j'avais réussi parce qu'en fait, on crée une clientèle,
oui.
parce qu'il y a des gens qui aiment bien telle librairie parce qu'ils savent qu'on fait ça, on sait très bien faire ça et ça et ça. Et puis l'autre, il sait beaucoup mieux présenter ça et ça et ça. Donc les lecteurs souvent vont dans
plusieurs
librairies.
On est un peu infidèles. Moi personnellement, je suis pas d'une fidélité rare. C'est-à-dire que je sais en effet pourquoi je viens dans votre librairie.
Qu'est-ce qu'on va y découvrir?
Voilà. Et à quel moment j'ai envie de sortir de mon quartier pour peut-être me perdre dans autre chose.
Ah oui, oui. C'est tout à fait normal. Ça, c'est ça. Là, c'est faute buissonnier, hein, parce que on voit pas les mêmes livres. Et ils sont pas du tout interprétés de la même façon.
C'est vrai.
C'est-à-dire que on lit pas les livres, on les interprète, et on les interprète pas. Donc il y a des fois on aime bien tel son et on sait que telle personne, ça, elle sait bien le faire. Puis d'autres, on va dire, elle est pas du tout sensible à ça, elle sait pas bien le défendre, donc on va ailleurs.
Il est venu le temps de rembobiner. Tous les jours, on fait revivre une voix qu'on a envie d'entendre pour faire réagir notre invité. Dans le transistor de ma libraire Marie-Rose Guarnieri, la voix d'un auteur qui a échappé à la mort lors de l'attentat de Charlie Hebdo en 2015, Philippe Lançon. Il a subi 22 opérations et raconte au micro de France Culture la place des livres avant d'aller au bloc opératoire.
À peine rentré à l'hôpital, ou réveillé à l'hôpital, j'ai demandé à un ami qui passait chez moi de rapporter l'édition de la Pléiade, les trois tomes de l'édition Clarac, qui est la vieille édition de la Pléiade de Proust que j'avais chez moi. J'ai choisi quelques kits de survie, on va dire ça comme ça, et l'un d'eux, le premier d'entre eux, c'était Proust, parce que c'était un auteur, la recherche, un livre, une œuvre, qui m'avait toujours accompagné depuis l'adolescence. Et je me souviens de ma première descente au bloc consciente. Et effectivement, comme souvent, je me suis réveillé tôt le matin pour prendre la douche à la Bétadine. Et puis, je me suis recouché parce qu'on peut parfois attendre assez longtemps avant de descendre effectivement au bloc. Et j'ai pris Proust, peut-être avec un peu de dandysme aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire sinon faire ce que je sais faire, c'est-à-dire lire. C'est à ce moment-là, précisément, que je me suis dit, tiens, je vais commencer par aller à un passage que j'aime particulièrement, et depuis toujours, qui est la mort de la grand-mère. La situation était inverse. La mort de la grand-mère, ce long passage, c'est l'histoire de quelqu'un qui va vers la mort. Et moi, je venais de la mort. Et j'allais vers la vie. Je ne le savais pas véritablement encore. Mais ce que je savais, en revanche, que je sentais plutôt, c'est que je venais de la mort. Donc, en quelque sorte, la grand-mère, cette chère grand-mère que j'avais si souvent lue, je l'ai croisée dans l'escalier.
Philippe Lançon, dans le Mac de l'été, qui a signé un livre bouleversant, c'est Lambeau.
Moi, c'est une des grandes... très grand choc littéraire que j'ai eu cette année. Et vraiment, si les personnes qui ne l'ont pas encore lu, de toutes mes forces, je leur demande de se précipiter pour se l'offrir. Parce que s'il y a un livre qui est important sur la littérature, puisqu'on parle de métier, c'est ce livre-là. D'abord, on est dans un temps intérieur, un temps suspendu, où il dit, comme il dit, j'ai suspendu mon jugement. Et c'est un livre où on revient à la vie. Il a déjoué tous les clichés qu'on aurait pu faire sur un sujet comme celui qu'il a choisi. Mais ce qui est beau dans ce livre, c'est qu'il montre combien parfois vous avez accumulé beaucoup de lectures et ils vous ont pas servi à rien et vous n'avez pas utilisé. Et là, soudain, dans le drame dans lequel il s'est trouvé, dans l'abîme dans lequel il était en train de vivre, soudain les livres sont devenus là des outils, et comme en renfort, on renforçait sa vie pour le reconstruire tout doucement et remonter l'escalier vers la vie.
La littérature, c'est ça, c'est ce bagage qu'on transporte sans vraiment le savoir et qui ressurgit peut-être à des moments.
Ouais, d'un capital immatériel. Ouais. En fait, vous dotez d'un capital. Et souvent, je me suis rendu compte parfois dans les voyages, j'ai eu une réponse qui m'est venue parce que j'avais le souvenir d'un auteur qui avait dit que quand il faisait ça. Par exemple, je me souviens, j'étais arrivée dans un pays, puis je me suis dit, ah ouais, Nicolas Bouvier lui dit quand il va dans un pays, il court pas du tout, il s'assied dans un café et il attend. Il y a toujours quelqu'un qui vient vers lui. Donc je vais faire l'expérience. Donc c'est au moment le pire, c'est celui qu'a vécu Philippe Lançon, puisque c'est un livre sur, c'est un des survivants de l'attentat de Charlie Hebdo. Au moment le pire de l'existence, soudain, des livres sont venus à son comme recours, comme secours, pour comme ça construire pas à pas une nouvelle vie.
Et comme on s'intéresse à vous dans l'intimité de votre métier, mais à vous aussi en tant que lectrice, s'il y avait un livre qui pour vous représente comme Proust pour le Philippe Lançon, tout d'un coup un texte qui vous a un moment sauvé la vie, qui vous a permis de mettre ce fameux coup de pied quand on est au fond de l'eau pour remonter.
Ah ouais, j'en ai plusieurs. C'est compliqué de le trancher. En tout cas, en ce moment, voilà, je dirais le livre, c'est des moments, ça dépend des moments. Mais là, c'est pas celui qui me vient, c'est celui de Philippe Lançon. Vraiment, c'est
encore
un livre majeur et. Ce qui est, c'est admirable de faire sentir comme ça ce qu'est aussi le corps médical, ce que c'est que notre humanité, ce que c'est qu'une famille, ce que c'est. Il y a beaucoup d'humour. Enfin, c'est inattendu. C'est un livre inattendu. Il a complètement échappé. Non, il y a beaucoup d'auteurs qui m'accompagnent dans la vie, qui m'aident à vivre vraiment. Alors donc en dire un, ça m'ennuie.
Triste, ouais.
Bon, j'ai des livres qui ont été comme ça, qui m'ont frappé, comme Martin Eden, il y a Camus, par exemple, l'expérience de l'étranger de Camus, quand il dit aujourd'hui maman est mort et puis ça lui fait rien, c'est la chose qu'on redoute le plus. Et c'est une expérience de lire ce livre. C'est de dire comment cet homme fait pour
ne rien sentir,
alors que ce qu'on redoute le plus, c'est peut-être que la mort de notre mère. Et lui, il vous fait vivre une expérience que ça pourrait être pas du tout un drame, mais quelque chose de tout à fait ordinaire. Enfin voilà, il y a des livres comme ça qui vous ont fait vivre des expériences et qui s'inscrivent en vous, qui s'inscrivent en vous et qui peuvent revenir en renfort et vous donner des clés et des réponses au moment les pires.
Ce qui est génial, c'est que quand on est libraire et qu'on conseille des livres et qu'on est capable un jour de mettre entre les mains d'un lecteur un livre, on peut être l'instrument de celui qui va faire un peu changer la vie.
C'est ce qu'on essaie de faire, c'est vrai, c'est que moi je crois beaucoup en la force des mots des auteurs, parce qu'il y a quand ce sont de grands auteurs, il y a une justesse, il y a une sorte de performance dans le sens de forer au plus profond de soi. Donc en tout cas, l'expérience d'une lecture quand c'est des grands auteurs, c'est aller en contact avec soi-même, parce que c'est ça aussi, c'est
se rencontrer.
C'est rencontrer, et c'est des mots qui vont chercher en vous, débusquer en vous peut-être des émotions ou des réponses que vous avez cherchées depuis très longtemps, et soudain, il y a un auteur qui vous l'offre comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut garder de l'espace pour que ce contact puisse s'établir.
Dans le Mac de l'été, on a poussé les murs pour faire une petite place à la poésie. Tous les jours dans cette émission, une grande voix de France Inter nous lit un texte.
Chaque jour, l'homme apprend stupéfait la nouvelle de sa mort prochaine et se jette sur l'éternité comme un chien sur un os. L'homme n'a rien appris. Il peut bien d'un doigt bousculer les montagnes, il peut bien déplacer un fleuve et converser avec le souffle des étoiles. Au soir de sa journée, seul à seul avec son silence, les pieds dans sa fatigue, quand il lève les yeux, il voit, le vol d'un oiseau est un miracle dans le ciel, le seul miracle. Vous voulez que je parle de la vie véritable, c'est-à-dire du vent d'hier, de la vitre sale ou de la sensation dans les draps que l'heure pivote sur elle-même. Du rendez-vous de demain, mais demain est-il vrai? Le bitume et le casque du motard sont-ils plus vrais que le chant des tourterelles? Si vous demandez des preuves au poème, je demande à mon tour, qui a jamais trouvé sur ses mains le bleu du ciel? Si je chausse vos certitudes, j'ai mal aux pieds. Le poète, orphelin du vrai, va pieds nus dans l'étrangeté des choses et s'ouvre à lui, sous l'évidence, la profondeur qu'elle oublie.
Vous l'avez reconnu, merci Dorothée Barba, que vous retrouvez à la rentrée dans Capture d'écran à 6h52 dans le 5-7 de France Inter. Merci Dorothée. Expliquez-nous pourquoi vous avez choisi de nous lire ce texte.
Je vous ai lu un petit morceau de Politique de la beauté. C'est un livre de Jean-Pierre Siméon. J'aime beaucoup Jean-Pierre Siméon. Je tenais surtout à prendre un poète contemporain, parce que la poésie aujourd'hui, elle est bien vivante. Et c'est vrai qu'on a une image un peu élitiste de la poésie, une image qu'on associe parfois à l'enfance, à ces poèmes qu'on récite à l'école, de poètes, de grands poètes qui sont notre patrimoine et qui sont morts et enterrés. Siméon est bien là, il est vivant et c'est un militant de la poésie. Il a écrit un bouquin que j'adore qui s'appelle « La poésie sauvera le monde ». C'est un idéologue de la poésie. Ce qu'il dit surtout, Siméon, c'est que la poésie est partout et qu'il suffit d'ouvrir les yeux pour la voir dans la vie quotidienne, dans l'ordinaire. Il dit que la poésie est inquiétante, qu'elle récuse par principe la quiétude du sens. Elle est même davantage, elle est une leçon d'inquiétude. Il faudrait apprendre à s'inquiéter un peu plus avec Jean-Pierre Siméon et puis à apprendre une langue insoumise qui se libère du réel. La poésie est une insurrection, finalement.
Merci beaucoup, Dorothée Barba. On vous retrouve aussi tous les jours du mois de juillet dans le débat de midi.
Et puisqu'on parle, tenez un dernier mot de Jean-Pierre Siméon. Il organise un festival tous les étés au Chambon-sur-Lignon. C'est entre Haute-Loire et Ardèche, juste après le week-end du 15 août. Et c'est un régal.
Elle est parfaite. Merci, Dorothée. Bel été. Et vous, Marie-Rose Guarnieri, la poésie, elle occupe quelle place dans votre vie ?
Alors moi j'aime aussi la poésie dans le roman.
Elle est partout.
Ce que j'aime c'est la langue. J'aime le travail d'orfèvre que les auteurs savent quand ils savent sortir une phrase en agençant des mots très très justes, très précis sur une situation ou sur un monde. C'est toujours quelque chose qui m'émerveille. Voilà, c'est une des choses qui chaque fois je suis complètement émue de voir comme ça a été très bien pensé et d'une grande justesse. Et moi, chaque mot, c'est un monde. Et donc, chaque fois, ça m'ouvre, ça me met en vie, hein. C'est comme si vous arrosiez un jardin, quoi. Et donc, je suis très, très, j'adore la langue, j'adore les mots et j'aime beaucoup quand les auteurs savent employer couleurs, mots et
les
phrases
associer,
et rythme et musique. Voilà.
L'été est là, je vais un peu casser l'ambiance, Marie-Rose Guarnieri. Pour vous, libraire, c'est aussi l'été, la rentrée que vous avez en ligne de mire.
Oui.
524 romans à annoncer pour cette rentrée littéraire.
Oui.
À quoi ressemble l'été d'une libraire ? Sa valise doit être beaucoup chargée.
Oui, il faut s'organiser à des temps de lecture où on cherche les livres. Alors moi, je l'organise avec un groupe parce que j'ai un prix littéraire, donc j'ai un petit groupe avec qui je travaille. Mais il faut organiser son temps de lecture. Mais c'est quand même, j'ai toujours ce plaisir quand même à découvrir des livres. Et là, j'ai découvert quelques pépites qui m'ont réjoui. Mais il y a aussi des déceptions. Donc il y a des livres.
Vous voulez bien nous donner une pépite?
Allez, une pépite pour moi. Là, pour le moment, ma petite favorite, c'est Avant que j'oublie, justement. Elle s'appelle Anne Polly, c'est chez Verdier. Alors elle, c'est d'une grosse drôlerie. C'est à partir de la mort d'un père, un frère et une sœur se retrouvent et vous allez voir, ils vont aussi recevoir une lettre qui vont complètement changer le regard qu'ils ont sur ce père. Mais quand je vous raconte l'histoire, c'est quelque chose de très ordinaire. Tout est dans la façon de raconter, tout est dans la drôlerie. Enfin voilà, c'est un livre vraiment qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Il y en a un autre, c'est très inattendu, vous allez me dire, oh là, vraiment, vous ne faites pas tellement d'efforts pour nous faire découvrir. Bon, elle, c'est un premier roman, j'en ai plusieurs, je vous en ai préparé plusieurs, mais il y en a un qui m'a aussi beaucoup bouleversée, c'est le livre de Yann Moix, qui s'appelle « Orléans ». Et c'est un énigme à la littérature. C'est un livre vraiment qui montre comment sur l'enfance, sur la persécution dans les familles. C'est un livre aussi de haine sur la famille. Mais c'est un livre très très beau parce que quand il aime aussi, quand il aime les écrivains qui sont venus comme ça pour lui, comme une évasion, bah, sont traités de façon admirable. C'est un livre très fort.
De quoi se réconcilier éventuellement avec Yann Moix si on avait été fâché avec lui par le passé. Je ne sais pas, Marie-Rose.
Il y a l'écrivain.
Si vous êtes une grande voyageuse ici dans le Mac de l'été, pas besoin de bouger. Ce qu'on préfère, ce sont les voyages immobiles grâce à la littérature, comme on l'a fait ensemble, ou à la musique. Aujourd'hui, on s'évade en Éthiopie. Laissez-vous aller avec Mulatu Astatke, le père de l'éthio-jazz, Yegele Tedzeta sur France Inter. Il est venu l'heure de vous dire au revoir. J'espère que, avec Marie-Rose Guarnieri, cette rencontre de ma libraire, je vous ai donné envie d'aller voir un peu les livres de plus près, de les respirer, de les toucher, et qui sait, d'avoir cette envie de les emporter avec vous.
De reprendre contact avec vous, parce que vraiment, lire, c'est revenir à la maison, c'est-à-dire dans sa maison.
Alors revenez donc à la maison. Merci à toute mon équipe, Hélène Biziot à la réalisation, Fabrice Desmaz à la technique, Marie-Laurent Chéry, Raphaël Grimm-Marquis, Jean-Baptiste Audibert, sans oublier Anouk Valverde et Maëlan Loaec. Merci Marie-Rose Guarnieri. Demain, le Mac de l'été prend du repos. Je vous invite à aller rendre visite à votre libraire. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission, un face-à-face Marguerite Duras, Michel Platini. Oula. On rejoue le match avec le metteur en scène Mohamed El-Khetib et le journaliste Jean-Philippe Leclerc à l'occasion des 1 an de la victoire des Bleus au Mondial en Russie. Rendez-vous donc à 18h dès lundi. Belle journée, belle fin de journée et bon week-end sur France Inter, les amis.